9h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce micro. Sporama, l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde, c'est dans un instant. Et ce sera avec Bagassi Koura. Je vous propose tout d'abord un bulletin d'information. La secte islamiste Boko Haram a diffusé ce lundi une nouvelle vidéo montrant une centaine de jeunes femmes présentées comme étant les lycéennes nigérianes enlevées il y a un mois dans le nord-est du pays. Le chef de Boko Haram affirme les avoir converties à l'islam et qu'il ne les libérera qu'en échange de prisonniers du groupe islamiste. Mais Abba Moro, le ministre nigérian de l'Intérieur, a exclu tout échange de prisonniers, disant que ce n'est pas à Boko Haram de poser des conditions. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu juste quelques heures après son entrée en vigueur. Nicolas Pineau.
Oui, la trêve devait en principe entrer en vigueur 24 heures après sa signature vendredi dernier à Addis Abeba entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. L'accord de cessez-le-feu prévoyait aussi l'ouverture de corridors humanitaires et la formation d'un gouvernement de transition. Quelques minutes après la signature, le secrétaire d'État américain John Kerry avait même estimé que cela pourrait constituer une avancée majeure. Mais dimanche, des affrontements ont été signalés autour de Bentiu, capitale de l'État d'unité. Les rebelles accusent les forces gouvernementales d'attaquer leurs positions sur plusieurs fronts dans l'État du Nil supérieur et l'État d'unité. Djouba, de son côté, affirme avoir ordonné à ses hommes l'arrêt des hostilités et accuse les rebelles d'avoir lancé une attaque dès le lendemain dans les villes de Rubkona, Tarja et Mankia. Le dernier cessez-le-feu, signé le 23 janvier entre les belligérants, n'avait duré que quelques heures.
Merci Nicolas. Nouveau drame au large des côtes libyennes. Une embarcation chargée d'immigrants clandestins a fait naufrage aujourd'hui. Il y aurait des victimes d'après les autorités italiennes qui soulignent qu'environ 200 personnes ont pu être sauvées. Le naufrage s'est produit au sud de l'île italienne de Lampedusa. Point de passage pour de nombreux clandestins cherchant à rejoindre l'Europe. Attentat à Baïdoa dans le sud de la Somalie. Au moins 5 personnes ont été tuées et 7 autres blessées. D'après la police, la cible était un véhicule transportant un haut responsable local qui a survécu à l'attaque. La cause de l'explosion n'a pas encore été déterminée, mais des témoins affirment qu'il s'agissait d'un attentat suicide à la voiture piégée.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Moscou dit respecter les résultats des référendums d'indépendance à Donetsk et Lugansk, deux régions de l'Est de l'Ukraine, et le Kremlin préconise le dialogue entre les leaders des séparatistes pro-russes et Kiev pour appliquer ces résultats. Michel Joseph.
Pour le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le dialogue est le seul moyen de désamorcer la crise. Il a rejeté la nécessité d'une réunion internationale. Quant au président intérimaire de l'Ukraine, il a qualifié les référendums de farce et de propagande sans conséquences juridiques. Selon Oleksandr Turchinov, ils ne servaient qu'à camoufler des meurtres, enlèvements, actes de violence et autres crimes graves. Mais il s'est dit prêt à continuer le dialogue avec ceux qui, dans l'Est, n'ont pas les mains entachées de sang et sont prêts à défendre leurs objectifs de manière légitime. À Bruxelles, l'Union européenne a décidé de sanctionner au total 13 nouvelles personnalités russes et ukrainiennes. Concernant la Crimée, l'Union européenne a pris d'autres sanctions contre la Russie en ajoutant deux sociétés de Crimée à sa liste noire qui ne visaient jusqu'ici que des individus.
En Afghanistan, les talibans ont lancé leur offensive annuelle du printemps par une série d'attaques à travers le pays, dans la ville orientale de Jalalabad. Une fusillade au ministère de la Justice a fait 9 morts, 2 policiers, 4 civils et 3 assaillants. Dans la province voisine de Ghazni, des postes de contrôle de police ont été attaqués. Bilan, 3 morts, dont un policier. Des tirs de roquettes ont touché l'aéroport international de Kaboul et la base de l'OTAN à Bagram, juste au nord de la capitale afghane. Aucune victime n'a été enregistrée, mais la coalition signale des dommages mineurs aux équipements et dans l'un des bâtiments. Les talibans ont revendiqué toutes ces attaques. Au Yémen, 6 militants d'Al-Qaïda ont trouvé la mort dans une attaque. Ils ont apparemment été la cible de drones américains. Washington ne fait point de commentaires sur des attaques de ce genre, mais a plusieurs fois utilisé des drones contre des membres d'Al-Qaïda au Yémen. Par ailleurs, l'armée yéménite annonce la mort de plusieurs dizaines de militants depuis le début d'une opération il y a 2 semaines contre les bastions des terroristes dans le sud du pays. Vous suivez La Voix de l'Amérique maintenant, place à Sporama. Sporama présenté dans un instant par Bagassi Koura.
Oui, Oui, bonsoir à tous et bienvenue dans Sporama. Ravi donc de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Comme tous les lundis, dans notre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de Sporama. Nous attendons vos appels en direct. Composez le 001 202 619 31 40. Avec nous ce soir, nos consultants. D'abord, Jules Valentin Gouet à Libreville au Gabon. Bonsoir, Jules.
Bonsoir, Bagassikoura. Bonsoir à tous.
Et nous avons aussi Élisée Mpatine à Bouikon au Bénin. Bonsoir, Élisée.
Bonsoir, Bagassikoura, et bienvenue au Bénin.
Voilà, en espérant retrouver les autres au cours de l'émission, nous allons commencer tout de suite. Et avec notamment cette tragédie en RDC, on signale au moins une quinzaine de morts et une vingtaine de blessés hier à Kinshasa à l'issue d'un match de football opposant l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe au stade Tata Raphaël. Les autorités congolaises mettent en cause des groupes de supporters agissant en, je cite, « véritable milice ». Une enquête a été ouverte, comme nous l'explique Lambert Mende, il est le porte-parole du gouvernement congolais.
Lorsque la police a commencé à disperser les personnes en tirant quelques gaz lacrymogènes, il y a eu un mouvement de panique sur deux portes d'accès qui devaient permettre aux gens de sortir. Il y a eu une bousculade à ce niveau. Nous attendons les résultats d'une enquête pour annoncer une série de mesures afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas d'éléments qui indique que la police ait fait autre chose que ce qu'elle aurait dû faire, c'est-à-dire séparer les fanatiques des deux camps qui étaient en train de s'en prendre les uns aux autres.
Est-ce que, selon vous, les organisateurs de ce match sont en cause?
Oui, parce qu'il leur appartient d'affiner l'encadrement des clubs sportifs qui sont engagés. Vous savez, c'est la Ligue nationale de football qui a en charge l'organisation et il y a un règlement pour la tenue des supporters. Règlement qui s'impose à tous les clubs sportifs. Donc, les torts sont évidemment partagés. Nous attendons que la commission dépose son rapport pour que les conclusions soient tirées.
Voilà, c'était Lambert Mende, joint à Kinshasa par Nicolas Pino. Et puis, nous avons Kanish Mukongo en ligne de Kinshasa. Il est journaliste à Radio Okapi. Et bonsoir, Kanish.
Bonsoir à tous les amis de la Voix de l'Amérique.
Alors, vous étiez sur place hier au stade. Dites-nous ce que vous avez vu ou entendu.
Effectivement, hier, nous étions au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Tout s'est déroulé normalement jusqu'au moment où Red Club a encaissé le but à la 34e minute du côté de l'équipe de tout-puissant Mazembe. Mais à quelques minutes de la fin de cette rencontre, les supporters de Red Club mécontents de la défaite de leur équipe, bien sûr, et se sont pris à leur joueur. Et là, du coup, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser le public. Mais malheureusement, déjà, le stade était très rempli hier. Et le nombre de billets vendus, le nombre de supporters venus au stade était plus large par rapport à la capacité du stade Tata Raphaël de Kinshasa. Ainsi, arrivé et attiré, comme toutes les portes étaient presque fermées, et il fallait que chacun se précipite pour sortir. Voilà, c'est comme ça que les incidents ou ce qu'on a vécu hier. Mais sinon, dans l'ensemble, la situation était un peu calme parce que certains supporters de Mazembe, supporters de Vita, sont sortis dans le calme. Chacun, parfois, il se moquait, l'un se moquait de l'autre pour dire vous avez perdu en toute sportivité. Même s'il y a eu un incident, c'est par rapport à ce qui s'est passé après, il y a des gaz lacrymogènes tirés à la police nationale congolaise qui cherchait à mettre du calme et la paix par rapport à l'attitude affichée par certains délinquants ou supporters de l'AS Vita, s'il faut le dire ainsi.
Alors,
dans l'ensemble, le match s'est déroulé normalement. Mazembe a marqué son but.
Avant de revenir, Kanish, avant de revenir au match, on va dire un autre mot sur ce drame. Quel a été le sentiment des Kinois aujourd'hui, au lendemain donc, de ce drame? C'est la colère ou quel était le sentiment général?
Comme tout sportif qui se respecte, tout le monde était déçu et surtout à prendre la nuit par les médias, notre radio, les différentes radios internationales qui annonçaient qu'il y a eu 15 morts. c'était une désolation dans le milieu de différents responsables sportifs. Je vais citer là avec club, tout comme Mazembe, tout le monde était dessus. Le football, c'est la fête, et c'est la sportivité. Curieusement, c'est le drame, c'est ce qu'on a vécu. Les autorités ont annoncé le bilan officiel, c'est 13 morts, plus de 21 blessés. Et c'est ça, c'est que la version que nous avons officiellement. Même ce matin, il y a eu la réunion interministérielle des différentes autorités, le ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur et les autres, le gouverneur de la ville de Kinshasa, les autres se sont retrouvés pour dégager les responsabilités. Qui est responsable, qui est auteur de tel ou tel acte qu'on a vécu hier au stade Tata Raphaël, mais sinon la Ligue de foot, l'organisateur bien sûr de la compétition et les autres se sont battus aussi. Nous avions d'après nos sources.
Alors Kanisha, on va écouter quelques-uns de nos auditeurs qui ont bien voulu réagir au sujet de cette tragédie. On écoute d'abord Moussa Fofana qui est en ligne de Libreville au Gabon. Bonsoir Moussa.
Bonsoir monsieur.
Oui, alors qu'est-ce que vous avez à dire concernant cette tragédie?
Qui est passé à la stade Congo-Kinshasa, c'est la faute des autorités congolaises. Parce que la sécurité était faible. Les polices ont commencé pour lancer les lacrymogènes sur les supporters. À cause de ça, les dégâts ont été déclenchés. Ouais.
Alors, donc vous pointez carrément du doigt les autorités, hein, les autorités policières?
C'est la négligence des autorités.
D'accord. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci. C'était donc Moussa Fofana, un de nos auditeurs à Libreville, au Gabon. On revient à vous, Kanish. Sur le plan sportif, carrément, il faut dire que les Corbeaux ont décroché à l'issue de ce match un nouveau titre de champion de la République démocratique du Congo.
Effectivement, c'est le quatrième titre consécutif. Hein. C'est après 2011, 2012, 2013, aujourd'hui 2014, c'est le quatrième titre rappelé par l'équipe de Tout-Puissant Mazembe, qui est connue à travers le monde. Vous le savez, Mazembe, c'est le vice-champion du monde. Vous le savez, Mazembe, qui a joué même la finale de la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération. C'est la fierté de la République démocratique du Congo. Mais attention, la surprise de cette compétition, parce que l'équipe de Samba Sarah Ben de Mbujima était très bien positionnée. Elle était prête même à rappeler le titre hier. Si Béclair de la DMB faisait un match nul, mais malheureusement, ce qui n'est pas arrivé, désolation pour les supporters de l'AS Club, et Mazembe qui a gagné un quatrième titre consécutif, mais sinon pour l'équipe de Sangalembe qui retourne au niveau africain, c'était une compétition de taille, même s'il y a eu quelques irrégularités, et parfois des petites désolations, comme par exemple ce que nous avons vécu hier, mais sinon dans l'ensemble, c'est une compétition qui s'est passé normalement. Déjà, le début de la compétition, il y a eu des rapages. La Minafoot n'a pas hésité pour frapper, sanctionner les responsables, tout comme le club fautif. Mais en dernière minute, surtout une dernière journée, qui pouvait nous permettre en toute sûreté, mais malheureusement, on a vécu ce qu'on a vécu hier. Ouais. Et surtout, l'étape de play-off, qui est une petite déception pour cette compétition qui s'est déroulée normalement du début presque à la fin.
D'accord, merci bien Kanish Mukongo qui est en ligne de Kinshasa au Congo. On rappelle que le Corbeau, le TP Mazembe, donc, est champion de la République démocratique du Congo et Sanga Balende a terminé deuxième. Vous écoutez Sporama sur La Voix de l'Amérique, Bagassi Koura au micro et avec nos correspondants sur le terrain, notamment à Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngwe et à Boyikon au Bénin, Élisée Mpatine. Nous passons maintenant à la CAN Junior dans le cadre des éliminatoires de la CAN Junior. Donc les Aiglons du Mali ont battu en match aller les Étalons Juniors par le score sans appel de 3-0, le compte rendu de Salif Kabore.
Pourtant, c'est l'équipe burkinabé qui avait le contrôle du match jusqu'à la 14e minute de jeu. Une minute plus tard, Salou Guindo reprend de la tête un centre venu de la droite vers la gauche, des buts gardés par le portier burkinabé et fait écraser la boule de cuir dans les filets. 1-0. Le public, acquis à la cause du 11 burkinabé, ne perdait pas espoir, mais le jeu des burkinabés devenait de plus en plus décousu et la peur va gagner du terrain à la 26e minute de la seconde partie du jeu. Salut Guindo récupère une balle sur le côté droit du terrain, amorce une longue enjambée, brûle la politesse du gardien burkinabé et loge royalement le ballon au fond des filets. Les étalons juniors sont cueillis à froid et les espoirs commencent à se dissiper. Alors qu'on s'attendait à une réduction du score, ce sont les Maliens qui reviennent à la charge à la 82e minute de jeu par le même Saliou d'une tête qui lobe le portier burkinabé. 3-0, la messe est dite pour l'entraîneur Sidi Napon.
Ils ne sont pas rentrés dans le match tout de suite, ils ont douté un moment et ce qui a enchaîné, les gens ont dit que les dés sont faits, mais dans le football, il ne faut jamais baisser le voile.
3-0 donc, le score est si lourd, mais d'après le porte-parole des joueurs burkinabés, rien n'est impossible dans deux semaines à Bamako.
Nous aussi on peut aller chez eux marquer 3 buts, on est dans le football, on n'a pas peur.
Le capitaine des Aiglons du Mali estime certes que les matchs ne se ressemblent pas, mais Bamako devrait être la consécration.
Les autres matchs, on les prendra comme ils viendront.
Pour l'entraîneur malien, c'est le mental qui a joué. Farayiri Diara.
On était là pour un résultat. Le résultat, on l'a fait. Pour nous, c'est ce qui était important. Et ce résultat, c'est un acquis qu'il faut peut-être consolider à Bamako.
Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Alors Jules, vous venez d'entendre le reportage de Salif Kabore à Ouagadougou. Hein. Les étalons juniors ne font pas comme leurs aînés.
Oui, il faut dire qu'ils avaient affaire à forte partie. Et généralement, quand on rencontre les Maliens, quelles que soient les catégories de jeu, et ils sont très dangereux à l'extérieur parce que c'est les maîtres du contre pratiquement en Afrique subsaharienne. Et avec leur capacité physique, ils s'imposent souvent dans le jeu aérien. Et je crois que le scénario du match n'a fait que confirmer tout cela. Et donc, un match n'est jamais totalement gagné, surtout dans les combinaisons aller-retour, mais il sera très, très, très difficile au Burkinabé pour renverser la vapeur à Bamako, où on les attendra avec un bloc très hermétique.
Alors, pour continuer donc sur cette lancée de la Coupe d'Afrique junior, les éliminatoires donc, le Mozambique a été battu par la Zambie 2-0. Le Malawi et la RDC ont fait un but partout et la Sierra Leone est tombée face au Ghana 2-0. Élisée, un commentaire?
Oui, Bagafi Koura, quand on parle de football des jeunes, hein, il faut savoir que les Ghanéens sont souvent en présent. La seule équipe africaine à avoir remporté une Coupe du Monde de cette catégorie-là, c'est un résultat logique. Et maintenant, il faut gérer le match retour en attendant le dernier tour qui sera qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations.
Alors, Kaniche, vous êtes à Kinshasa. Hein, la RD Congo a fait un match nul avec le Malawi. C'est quand même une sorte de déception.
Bon, ce n'est pas une déception pour une équipe constituée en dernière minute, même si déjà l'entraîneur était nommé en retard. C'est vrai que vous rappelez, la Fédération Congolaise de Football Association a nommé quelques entraîneurs ou sélectionneurs pour les équipes nationales, à part l'équipe type A qui a été abandonnée par Claude Leroy, qui est parti depuis bientôt une année. Mais sinon, Otis Ngoma qui a été nommé à quelques jours du match, déjà si l'entraîneur arrive, il arrache un match en déplacement alors qu'on a un autre match, un match retour ici au pays. C'est déjà une bonne chose pour l'équipe de la RDC constituée en dernière minute parce que je me rappelle, c'est à deux jours du match qu'il vient chercher encore les passeports ici au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Donc vous comprenez qu'ils sont allés en catastrophe, ils sont allés, c'est vrai qu'ils n'ont pas rencontré beaucoup de difficultés, mais une équipe constituée presque en dernière minute parce que la liste était déjà publiée à quelques minutes ou à quelques jours et ça fait déjà du bien pour la République démocratique du Congo qui va relancer et pourquoi pas aller jusqu'à la fin de cette pour participer à cette canne du Sénégal.
Alors, on va continuer avec la suite des résultats des éliminatoires allées donc, de la Coupe d'Afrique des Nations Juniors. La Libye et la Tunisie ont fait match nul, un but partout. L'Afrique du Sud a écrasé l'Éthiopie 2-0. Et le Cameroun a eu raison du Burundi, 1-0. Le Rwanda et le Gabon ont fait match nul, 0 partout. Sur cette rencontre, écoutons le capitaine du Gabon, Dinda Muller.
Nous sommes satisfaits de son 0-0 et tout en sachant qu'on a un grand match à faire au pays, il faut tout à fait complètement qu'on se qualifie au pays.
Cette équipe rwandaise, par moment, elle a pris le dessus sur vous dans le jeu.
Bon, c'était les consignes du coach qu'on laisse développer derrière et devant une opportunité dangereuse, donc c'est ce qu'on a respecté en tout cas.
Vous pensez que vous auriez pu marquer aujourd'hui ici?
Oui, mais on a, on a eu l'occasion franche, donc je pense qu'on peut marquer, mais dommage que ça n'a pas été.
Alors, au vu du déroulement du match, la défense gabonaise a subi le match.
Ouais, c'est ça, une équipe. Une équipe, c'est savoir se souder les coudes. On a défendu en groupe, donc c'est ce qui a fait en sorte qu'on fasse un 0-0.
Est-ce que les consignes du coach ont été respectées?
Ouais, ça a été complètement respecté. C'est voilà pourquoi il y a eu tout ce qu'il y a eu là.
Alors, ce 0-0 vous met dans l'obligation de gagner au match retour.
Il n'y a rien à faire. On est obligé de gagner au pays pour se qualifier.
Voilà, c'était donc Denda Muller, le capitaine de l'équipe junior du Gabon. Jules, vous êtes à Libreville. Hein? Comment vous avez vu cette rencontre-là?
Oui, c'est une rencontre qui a été commentée par des confrères et qui ont surtout retenu que un match nul à l'extérieur, 0-0 était un résultat qui, ma foi, pouvait permettre de penser qu'au match retour, on peut renverser la vapeur. Mais je me dis toujours que dans le football des jeunes, c'est un football vraiment imprévisible. Et il faut également savoir que le premier match était un match de reconnaissance où on ne connaissait pratiquement pas son adversaire. Et c'est souvent au deuxième match que les vraies hostilités commencent. Donc je crois 0-0, c'est un bon résultat à l'extérieur, mais il ne garantit rien du tout.
Alors Élisée, le Bénin est tombé 2-1 face au Congo, l'autre Congo, Brazzaville.
Oui, une défaite, hein, puisque les Béninois ont eu le privilège de marquer en première position grâce à l'attaquant d'Énergie Football Club de Cotonou, un club de la première division, mais c'était sans compter sur la détermination des Congolais de Brazzaville qui ont su égaliser pour prendre l'avantage. Maintenant, le plus important, c'est de chercher un but, Bagassi, au match retour. C'est une mission très ouverte pour Yessoufou Lafiou, l'entraîneur de cette équipe junior. Notons que cette sélection s'est bien préparée en livrant des rencontres amicales, surtout contre le Nigeria. Donc, ce sera un match à la portée des écureuils, surtout dans 2 semaines.
Voilà, donc rappelons ce score, 2-1 pour le Congo face au Bénin. Le Togo est tombé face au Maroc 2-0. Le Libéria a réussi un exploit en battant la Côte d'Ivoire, son voisin, 1-0. Le Soudan a été écrasé par l'Égypte 3-0 et l'Angola a été battu par le Lesotho 3-1. Le Nigeria a battu la Tanzanie 2-0.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Et vous êtes à l'écoute de Sporama sur La Voix de l'Amérique au micro Bagassi Koura. Parlons maintenant de la Coupe du Monde. Le sélectionneur de l'Algérie, Vahid Halilhodžić, a communiqué ce lundi une présélection de 30 joueurs en vue du Mondial 2014. On note la présence des milieux offensifs Riyad Boudebouz et Riyad Mahrez. Le sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a aussi présenté une liste de 26 joueurs qui participeront à la préparation de la Coupe du Monde au Brésil. Bien sûr, les frères Ayou, André et Jordan font leur retour. Élisée, vous avez vu cette liste. Vous pensez que le Ghana a les armes qu'il faut pour cette Coupe du Monde?
Oui, les armes qu'il faut pour cette Coupe du Monde, oui, pour aller loin, pourquoi pas atteindre les quarts de finale. C'est vrai que Kwesi Appiah a sélectionné les meilleurs du moment, notamment des joueurs comme John Boy qui a repris la compétition avec Rennes, battu en finale de la Coupe de France, Jonathan Vincent, Rachid Soumaïla, des revenants, et surtout au milieu de terrain avec la révélation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en Afrique du Sud, Wakasu Mbarak, voilà ce jeune attaquant qui s'est fait remarquer lors de cette compétition. Vous l'avez dit, le retour des frères Ayou, surtout Jordan, qui n'a plus été sélectionné, et il est en très bonne forme avec son club Sochaux qui lutte pour le maintien en France. C'est-à-dire que c'est une très belle sélection, mais attention, puisque le groupe que le Ghana est dans un groupe très difficile, et il faudra sortir le grand jeu pour passer à l'étape des huitièmes de finale.
Voilà, Jules, vous venez d'entendre Élisée sur l'équipe ghanéenne. Vous êtes à côté du Cameroun, hein. J'imagine que vous avez quelques échos sur les Lions. puisqu'on n'a pas encore les listes, je crois.
Oui, mais sinon, la liste des 30 est déjà connue et il y a de vives discussions, notamment au niveau de la sélection des anciens Weibo et justement l'attaquant du championnat allemand, et disons, qui est très controversé et au Cameroun, en dehors de Choupo-Moting. Et donc, nous nous retrouvons donc avec une sélection dans laquelle tous les joueurs possibles sont présents, mais il faudra savoir sur ces 30, quels sont les 23 qui seront retenus. Est-ce que Idrissou sera là avec Weibo en même temps, ou alors est-ce qu'on va sacrifier un des deux joueurs qui le plus souvent servent de paravent à Samuel Eto'o?
Alors, et à l'attaque, donc vous parlez de Samuel Eto'o, et on peut imaginer aussi Vincent Aboubakar là-bas?
Bien sûr, Vincent Aboubakar, c'est la vedette actuelle, et beaucoup d'espoir porte sur lui. Et notamment, nous savons que c'est un joueur qui, par son mouvement et par le fait qu'il peut attirer des défenseurs sur lui, peut permettre aux très expérimentés Eto'o de pouvoir exploiter les attaques placées. Donc, le Cameroun a une équipe sur le plan individuel qui est très, très, très sérieuse, qu'il faut prendre au sérieux. Nous savons que Mbia, par exemple, joue la finale cette semaine de la Coupe de l'Europa League. Et finalement, au niveau individuel, ce n'est pas mal, mais le tout, c'est de savoir si la mayonnaise va prendre dans le groupe et surtout l'esprit de combattant qu'on connaît souvent au Cameroun.
Alors, donc on parlait donc du Cameroun là. Il y a aussi les éléphants. Et il faut rappeler que hier en Europe, c'était le Championship Sunday en Angleterre. Et Yaya Touré, bien sûr, a été sacré champion d'Angleterre avec son club Manchester City, qui remporte ce titre pour la 4e fois de son histoire. Caniche, un mot rapidement sur les éléphants de Côte d'Ivoire. On me dit qu'on n'a plus Caniche. On va passer donc au cyclisme, avec un total de 10 équipes en provenance de 11 pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de la France. Ces pays donc vont prendre part à la 11e édition du Tour cycliste international du Bénin, qui se déroulera du 13 au 18 mai. Et Élisée Mpatine nous fait le point.
Le Tour cycliste international du Bénin ambitionne, à travers sa 11e édition, de dynamiser les liens d'amitié entre les pays participants, mais aussi un cadre de promotion pour le cyclisme béninois, capable de susciter de nouvelles vocations au sein de la jeunesse béninoise, tout en offrant une plus grande visibilité aux plateformes exceptionnelles, selon le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Rétis Dagba. Le tour sera lancé le 13 mai à Natitingou avec un critérium distant de 80 km. Ensuite, il y aura la deuxième étape entre Djougou et Parakou, 138 km. La troisième étape entre Parakou et Savé sera de 160 km. La quatrième étape entre Savé et Boïkon, 130 km. La cinquième étape à Porto Novo sera un critérium distant de 100 km, tout comme la sixième étape de Cotonou, qui sera courue sur une distance de 80 km pour boucler l'événement le 18 mai prochain. Plusieurs maillots sont prévus pour mettre en valeur les meilleurs coureurs sur le tour, nous a confié Francis Ducreux, promoteur de cette compétition.
Nous avons le maillot mauve, c'est le premier, c'est le deuxième maillot, si on veut dire, qui est le maillot du classement général au point, le meilleur sprinter du tour. Nous avons le maillot du premier béninois, le maillot Peugeot Socar, le maillot Oryx, maillot Oryx Téran, maillot qui sera d'ailleurs, comme tous les jours, comme dans tous les tours, c'est le maillot qui sera le premier remis, le vainqueur d'étape, le maillot Aquabel. Il y aura deux ou trois par jour, rafraîchir tous les coureurs.
Les 11 pays attendus sont le Burkina Faso, le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone, la France, la République démocratique du Congo, le Congo Brazza, le Mali et bien évidemment le Bénin. Élisée Mpati, Boïkon, La Voix de l'Amérique.
Voilà, merci à Élisée qui nous parlait du prochain tour cycliste du Bénin. Merci donc à nos correspondants sur le continent. D'abord, Jules au Gabon, à Libreville. Bonsoir, Jules.
Bonsoir et surtout, à très bientôt.
Voilà, merci aussi à Élisée Mpatine qui était avec nous de Boïkon au Bénin. Bonsoir, Élisée.
Bonsoir, Bakati Goura, et on est ensemble là.
Voilà, ainsi s'achève notre émission Sporama de ce lundi. Rendez-vous la semaine prochaine.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur.
les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.